Le journal Alexandre Michler.
Madame, monsieur, bonjour. Un nouveau séisme en Turquie d'une magnitude de 7,5. Il a frappé le pays vers 10h34 ce matin. Il intervient après un premier tremblement de terre la nuit dernière qui a touché le pays mais aussi la Syrie. Selon un dernier bilan en cours provisoire, on dénombre plus de 1000 morts et plus de 5300 blessés. On fait le point dans un instant. Un nombre record de candidats pour le parti évangélique bernois. C'est du jamais vu. Le PEV propose 96 noms pour les élections fédérales de cet automne. 4 sont du Jura bernois. Présentation dans ce journal. La commission de gestion du Grand Conseil demande au Conseil exécutif de tirer des leçons de la crise Covid. Elle souhaite que le gouvernement présente d'ici à 2024 les mesures tirées de l'évaluation externe réalisée l'an dernier. Explication dans quelques minutes. Des éclaircies seront possibles cet après-midi. En revanche, il fera frais en raison de la bise pour la suite du programme. Météo News annonce un temps plutôt bien ensoleillé pour toute la semaine. L'horreur donc en Turquie et en Syrie, un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter a touché les deux pays en fin de nuit. Les dégâts sont importants, le bilan humain aussi. À l'heure actuelle, plus de 1000 personnes sont mortes et 5300 ont été blessées, des chiffres qui ne cessent d'augmenter. D'autant qu'on l'a appris à quelques minutes, un nouveau séisme de magnitude 7,5 a frappé le sud-est de la Turquie vers 10h34. Retour sur cette dramatique nuit avec vous, Loïc Georgi.
Au moins 50 répliques ont été ressenties dans 7 provinces différentes depuis 4 heures du matin environ. L'épicentre du séisme se situe dans le district de Pazarcık en Turquie, à 60 km environ de la frontière syrienne. Des milliers d'immeubles se sont effondrés dans les deux pays, expliquant un bilan aussi effroyable. De plus, les intempéries qui frappent certaines régions montagneuses paralysent les principaux aéroports, ce qui laisse de nombreux rescapés dehors dans le froid. Face à cette désolation, partout les habitants se mobilisent et tente de dégager les ruines à main nue. Selon plusieurs médias, des gazoducs auraient été touchés dans la province de Hatay. Le château de Gaziantep, symbole de la ville, s'est aussi effondré. Des hôpitaux publics ont également cédé sous l'effet du séisme dans les villes d'Iskenderun et d'Adiyaman. Le ministre turc de l'Intérieur a donc logiquement lancé un appel à l'aide internationale.
Et la Suisse vient d'ailleurs d'exprimer ses condoléances à la Turquie et à la Syrie via les réseaux sociaux du président de la Confédération, Alain Berset. Il affirme également que le pays est prêt à fournir une aide humanitaire d'urgence. Dans la région, le PEV lance un nombre record de candidats dans la course au Conseil national. Le parti évangélique bernois propose 96 noms pour les élections fédérales de cet automne, du jamais vu en 104 ans d'histoire de la formation. Les prétendants sont répartis sur 4 listes différentes. Dans le Jura bernois, on compte 4 candidats, Tom Gerber, Patrick Steiger, Jean-Daniel Roux et Igor Spichiger. 2 Biennois viennent compléter la délégation des régionaux pour ce scrutin. Député au Grand Conseil, Tom Gerber explique ce que ce nombre important de candidatures lui inspire.
Eh bien, il m'inspire qu'on a quand même beaucoup de monde. On a beaucoup de monde très qualifié au parti et ça me réjouit beaucoup d'avoir ces 4 listes qui nous permettent en tant que petit parti de montrer d'une part qu'on a beaucoup de gens capables d'assumer des fonctions politiques et puis d'autre part de finalement toucher le cercle de nos électeurs.
Vous l'avez dit, petit parti, beaucoup de candidats, c'est ça la stratégie du PEV, c'est vraiment de pouvoir montrer, on va dire, beaucoup de visages aux électeurs.
Eh bien la réalité, c'est quand même que finalement les électeurs, ils aiment bien voter et puis c'est bien de voter pour des gens qu'on connaît, pour des gens en qui on a confiance, pour des gens qu'on a envie de pousser et puis en tant que petit parti, nos possibilités au niveau ne serait-ce que de la publicité, etc. Et ben sont plutôt limités et c'est une manière de toucher les électeurs.
Des propos recueillis par Olivier Zano, le PEV qui lance également un candidat dans la course au Conseil des États. Il s'agit de l'actuel conseiller national Marc Yost. Le Conseil exécutif doit tirer des leçons de la crise Covid. C'est ce que souhaite la commission de gestion du Grand Conseil. Elle demande au gouvernement bernois de présenter d'ici 2024 les mesures tirées des enseignements de l'évaluation externe présentée l'an dernier. Anthony Montandron.
La commission de gestion a analysé le rapport externe présenté l'an dernier en détail et a procédé à son appréciation. Elle prend acte du fait que les notes attribuées au canton de Berne pour sa gestion de la pandémie sont globalement bonnes en comparaison intercantonale. En revanche, la commission de gestion ne comprend pas que le conseil exécutif ait renoncé à inclure dans le mandat d'évaluation les mesures spécifiquement cantonales, c'est-à-dire prises par le canton de Berne par dérogation aux prescriptions de la Confédération. On peut citer en exemple la limitation du nombre de participants aux manifestations ou l'arrêt des tests répétés dans les écoles. L'évaluation externe adresse cette recommandation au conseil exécutif. Le gouvernement bernois en a repris 4 et chargé les directions compétentes de prendre des mesures, mais sans fixer de calendrier. C'est pourquoi la commission de gestion souhaite s'assurer au moyen d'une déclaration de planification que le conseil exécutif présente d'ici début 2024 un rapport écrit sur l'accomplissement des mandats en question.
Nouveauté, dès le 28 février à Bienne, la feuille officielle de Bienne et d'Evillard sera encartée dans l'hebdomadaire Bilbienne. Cette mesure a pour but de permettre une poursuite de sa distribution dans toutes les boîtes aux lettres, tout en ménageant les coûts pour la ville de Bienne et l'éditeur Gassmann. Dans un communiqué diffusé ce matin, la ville de Bienne rappelle toutefois que la législation cantonale permet désormais aux communes de ne publier leurs annonces officielles plus que de manière électronique. Mais elle juge toutefois important de garder à moyen terme une solution imprimée de ce document, tant que cela ne l'impacte pas financièrement. C'est aujourd'hui la journée mondiale contre les mutilations génitales féminines. Il s'agit de ces interventions qui consistent à modifier les organes génitaux de la femme ou de la fille sans raison médicale. C'est une tradition ancestrale dans différentes communautés d'Afrique et d'Asie, mais l'ONU parle d'un problème universel. Sarah Descaillet est médecin en gynécologie et obstétrique au centre hospitalier de Bienne. Elle nous explique qu'en Suisse aussi, des femmes sont concernées par ces pratiques.
C'est difficile d'avoir un chiffre très précis, mais les estimations, elles sont basées aussi sur les mouvements de population. Le docteur Yasmine Abdoulkadir, qui est la grande spécialiste ici en Suisse, avait fait une étude en 2019 qui estimait plus ou moins à 22 000 femmes, les femmes touchées par cette pratique.
Le CHB possède donc son propre centre de santé sexuelle. Il y a des femmes victimes de mutilations génitales qui font appel à vos soutiens via ce service. À quel cas, vous en particulier, est-ce que vous vous êtes confrontée ?
Alors nous, on est souvent confrontés à des patientes qui ont plusieurs types de mutilations génitales féminines et qui viennent essentiellement soit pour des consultations liées à la santé sexuelle, c'est-à-dire sur leur bien-être ou comment est-ce qu'elles pourraient avoir des informations ou être orientées. Mais on est aussi confronté au CHB lors d'un accouchement à des patientes qui peuvent venir et qui, lors d'un accouchement par voie basse, vont avoir besoin de l'aide des professionnels de santé pour pouvoir accoucher normalement.
Voilà, le docteur Sarah Descaillet qui était l'invité de Diana Dacosta ce matin dans la matinale. Vous retrouvez son interview au complet sur notre site internet rjb.ch. Deux annulations pour cause de pandémie n'ont pas eu raison des sauvages au Noirmont. La tradition a repris ses droits dans le village franc-montagnard. La horde de sauvages s'est ruée hier soir sur le Noirmont. Donc, les hommes sapins grimés de noir avec cloches et fouets en main ont profité de la dernière nuit de pleine lune avant carnaval pour lancer les festivités du Carimentran 2023. Comme de coutume, ils ont traqué les béchates, les jeunes filles qui ont terminé dans la fontaine. L'agitation était palpable hier soir. Après 2 ans sans sortie, Léandre Béret a assisté à la séance d'habillage et de grimage dans une ferme sur les hauteurs du Noirmont avec Philippe, un sauvage d'expérience.
Christian, il est là ton costume au moins.
Alors c'est vraiment. Ben voilà, c'est parti. C'est des gens qui se déguisent, c'est des bruits, c'est des cris. C'est finalement là où on se transforme, où on devient vraiment en tant que sauvage. On entre dans le costume, on entre dans la position. Et c'est vraiment un moment qui est toujours très...
Vous changez de personnage quand vous passez en mode sauvage ?
Oui, parce que je suis plutôt cool et calme dans la vie, mais c'est vrai que là, c'est tout autre chose qui se passe. Surtout quand on revêt le costume et puis qu'on commence à être noirci, c'est une autre expérience.
Dites-nous un peu ce qu'il y a dans le costume que vous portez là.
La tradition, c'est vrai que c'est un costume qui est fait en jute, donc sac de café, des choses comme ça. Maintenant, on a un petit peu transformé, c'est plutôt des capotes militaires qui sont recouvertes de branches de sapin. Alors il y a tous les genres, hein. Il y a les gens qui veulent des grosses branches pour que ça couvre beaucoup. Le seul problème, c'est qu'il faut les porter après. Hein. Donc vous avez des costumes, je pense, qui font 40-50 kilos.
Ah ouais,
et puis ceux qui se font un petit peu avec des petites branches, je pense qu'on est à 25-30 kilos. Et puis après, ben, on peut mettre du lierre, on peut mettre des coquillages. C'est un petit peu au bon vouloir de chacun.
Le grimage, c'est jusque derrière les oreilles.
C'est jusque derrière les oreilles. Et puis je ne te dirai même pas jusqu'où on a les traces, les stigmates en fin de nuit. Et je vais peut-être l'apprendre, mais on enlève toujours un corps gras par un corps gras. C'est-à-dire que pour pouvoir enlever ce fameux cirage noir que nous avons sur le visage, il est primordial de graisser la peau avant. Et puis, bien évidemment, lorsque nous passons à la phase où il faut rentrer à la maison, hein, parce qu'on en a sérieusement assez, donc il faut passer à la douche. Moi, ma technique, c'est de prendre carrément le litre d'huile sous la douche. Je me régraisse la peau, je dégraisse le gras qui n'est pas moi, hein, bien évidemment. Hein, ouais, voilà. Et puis ensuite, on peut passer à une douche traditionnelle avec le produit de douche. On n'est pas tout à fait blanc, on est gris pâle.
Bonne ambiance. Tout à fait, bonne ambiance. Le but, c'est de partager ça aussi avec la communauté Fromont-Tagnard et Noirmonnière pour permettre justement à cette communauté d'entrer dans le Carimontran, dans le carnaval des Franches-Montagnes.
Alors, bonne fête.
Merci beaucoup.
Voilà, reportage réalisé par Léon Béret que vous pouvez retrouver sur rjb.ch. La sortie des sauvages, c'était donc hier soir au Noirmont. Quant au carnaval des Franches-Montagnes, il se déroulera du 17 au 21 février. La situation et les perspectives demeurent solides sur le plan de l'emploi en Suisse. L'indicateur du COF, le centre d'études conjoncturelles de l'EPFZ, s'est maintenu à un haut niveau. La progression est à mettre sur le compte des perspectives en matière d'emploi des entreprises, alors que nombreuses sont celles qui estiment leur nombre de collaborateurs trop bas. Y a-t-il une deuxième vague verte lors des élections fédérales d'octobre prochain? Un début de réponse sera apporté ce dimanche 12 février avec les élections dans le plus grand des cantons suisses, Zurich. En 2019, la vague verte et vert libéral avait caractérisé le scrutin zurichois et puis l'élection du Conseil et du Parlement fédéral. Tous les regards politiques sont ainsi tournés vers Zurich, ceux de notre correspondant parlementaire Serge Hubin aussi.
Vous prenez la courbe de l'évolution des partis politiques en Suisse et celle des partis à Zurich et vous constatez qu'elles se superposent presque exactement. Il y a 4 ans, UDC, PS et PLR avaient perdu des points, même si l'UDC reste tant à Zurich qu'en Suisse et de loin le premier parti. Le centre se maintient et les Verts libéraux grimpent pratiquement au niveau du PLR et du PS. Pour tous les partis politiques, c'est donc répétition générale dimanche prochain à Zurich. Pour le PLR en particulier, qui se montre très ambitieux et veut passer au deuxième rang des partis politiques, André Silberschmidt, conseiller national zurichois et vice-président du PLR.
Nous voulons gagner les élections fédérales en octobre et je pense que les élections à Zurich sont toujours un test pour nous de savoir où nous sommes. Il y a une année, nous avons gagné des différentes élections cantonales, de la Romandie, de la Suisse-Alémanique. C'est pas mal, nous avons stabilisé au niveau des électeurs et maintenant nous voulons gagner.
Autre parti dont on ne sait pas s'il continuera de s'éroder ou s'il rebondira, c'est le Parti Socialiste, qui a vu l'un de ses deux conseillers d'État zurichois, Mario Fer, lui faire faux bond pour se présenter en indépendant. Écoutez Mathéa Meyer, elle aussi conseillère nationale zurichoise et coprésidente du PS Suisse.
Je suis assez optimiste qu'on va regagner le siège avec Brice Kassel-Graff dans le conseil d'État. C'est évidemment nécessaire de toujours avoir la majorité pour la protection du climat, pour augmenter l'égalité, pour renforcer le pouvoir d'achat. Ce sont des sujets tellement importants. Pour ça, il faut avoir une majorité dans le Parlement.
En 2019, la gauche avait pris une fragile majorité au Grand Conseil zurichois. Fragile parce qu'elle comprend les Verts libéraux qui votent aussi avec la droite sur les questions financières. Sachez encore qu'au niveau de l'élection du Conseil d'État du canton de Zurich, les 7 sortants sont candidats à un nouveau mandat. Ce sont les UDC Nathalie Rickli et Ernst Stocker, la PLR Carmen Walker-Speer, la centriste Sylvia Steiner, qu'on dit en danger, l'ancien socialiste Mario Fer, la socialiste Jacqueline Fer et le vert Martin Neukomm, le PLR avec Peter Grünenfelder et le PS avec Priska Seiler-Graf ambitionnent de gagner un siège.
Les Suisses bénéficieront d'une nouvelle carte d'identité dès le 3 mars. Comme pour le nouveau passeport suisse introduit il y a 4 mois, la carte dispose d'éléments de sécurité plus performants et d'un nouveau design uniforme avec le passeport, indique Fedpol dans un communiqué. Toutes les cartes d'identité délivrées à ce jour conservent leur validité jusqu'à leur date d'expiration. Enfin, ce drame en France. 7 enfants de 7 à 14 ans et leur mère sont morts la nuit dernière dans l'incendie de leur maison à Charly-sur-Marne, à une centaine de kilomètres de Paris. Ils dormaient au deuxième étage de la maison de ville quand le feu s'est déclaré peu après minuit. Le père de cette famille recomposée, grièvement brûlé, a été extrait de l'habitation et transféré à l'hôpital.
12h29, Alexandre Michler, le journal se poursuit avec du sport.
Sport.
Et Federica Brignone mène le bal du combiné des championnats du monde de ski alpin. L'italienne pointe en tête du Super G qui se tient à Méribel. Elle devance de 71 centièmes la norvégienne Ragnhild Mowinckel et la tessinoise Lara Gut-Behrami. La Suissesse ne participera toutefois pas à la manche de slalom prévue dès 14h30. Du côté des autres Helvètes, sachez que Michel Gisin est 14e à 1 seconde 58 juste devant Wendy Holdener. Par ailleurs, Corinne Souter fait bien partie des 5 skieuses retenues par Swisski pour le Super G de ses mondiaux prévus mercredi en France. Reste à voir si elle prendra bien le départ. Victime d'une commotion cérébrale il y a 2 semaines à Cortina, la Suissoise doit être alignée en compagnie de la tenante du titre, Lara Gut-Behrami, de Michel Gisin, Yasmine Flouri et Johanna Ellen. Corinne Souter s'était parée d'argent dans la discipline lors des mondiaux de 2021. Enfin, en tennis, Marc-Andrea Hüsler fait désormais partie des 50 meilleurs joueurs de tennis du monde. Le gaucher zurichois de 26 ans a gagné 4 places au classement ATP pour figurer en 49e position aujourd'hui. Vous écoutez RJB, il est 12h31, la fin de ce rendez-vous d'information dont je vous rappelle le principal titre, ce nouveau séisme en Turquie en fin de matinée d'une magnitude de 7,5. Il a frappé le pays vers 10h34 ce matin. Il intervient après un premier tremblement de terre la nuit dernière qui a violemment touché la Turquie mais aussi la Syrie. Le bilan actuel qui est encore provisoire fait état de plus de 1000 morts et plus de 5300 blessés. On reviendra sur ces événements, bien sûr, dans nos différents rendez-vous d'information. Voilà, c'est la fin de ce journal, 12h32 sur RJB. Excellent après-midi.